Je vous propose donc de reprendre ce matin, je pense que ce chant nous aura bien introduit à la question, notre réflexion sur la méditation de la Bible et ce que la méditation de l'Écriture doit apporter dans nos vies. Quel est l'intérêt, si je l'exprimais comme ça, d'ouvrir la parole de Dieu et de s'y plonger au quotidien, tous les jours. Et j'aimerais commencer par poser une question, ce que je fais souvent, vous le savez. Connaissez-vous l'histoire de Mary Jones? À mon avis, non. Ce serait étonnant en tout cas. Alors, cette petite fille habitante du Pays de Galles avait attendu pendant des années qu'une école s'ouvre dans un village voisin à 6 km de son domicile. Elle s'y rendait tous les jours, pieds nus, parce que ses parents n'avaient pas de quoi lui acheter des chaussures, et elle y a appris à lire dans une Bible. Mais comment obtenir une telle Bible pour elle-même? Son prix était exorbitant à l'époque pour une petite fille de 8 ans, ainsi que pour ses parents. Pendant 6 ans, elle a fait toutes sortes de travaux, accommodage, couture, garder les vaches, pour gagner un peu d'argent. Lorsqu'elle eut économisé le prix de la Bible, elle se rendit toujours pieds nus à Bala, à 40 km de là, où habitait le pasteur Charles. Mais voilà, il n'y avait plus de Bible en gallois et l'éditeur londonien avait décidé de ne plus les imprimer parce que ce n'était tout simplement pas rentable. Mary fondit en larmes et le pasteur Charles se leva, alla vers sa bibliothèque, prit une de ses Bibles qui était en gallois et la donna à Mary. En décembre 1802, ce même pasteur se rendit au comité de la Société des traités religieux de Londres. Il raconta les années de travail et la randonnée de Mary pour venir chercher sa Bible. Et quand il se tut, il y eut un immense silence. Au bout d'un moment, le révérend Joseph Hughes se leva et dit « Monsieur Charles, l'appel de cette petite fille exprime l'appel du monde et de son immense attente de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas créer une société pour publier la Bible pour le monde entier ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce fut là l'origine des sociétés bibliques. Tout ça parce qu'une petite fille de 8 ans avait un amour inconditionnel pour la parole de Dieu. C'est parti de là. Le psaume 119, qui est le plus long de la Bible, dit en tout et qui parle, 176 versets, qui parle essentiellement de la parole de Dieu. Ben le verset 18 de ce psaume dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Nous avons besoin que Dieu nous fasse comprendre l'importance et le côté merveilleux d'être immergé, plongé dans la parole de Dieu. Pour Mary Jones, la Bible était la chose la plus importante au monde. Elle était capable de tous les sacrifices pour en posséder une. Mais pourtant, il y a d'autres chrétiens qui vont avoir plus de mal à comprendre justement pourquoi la parole de Dieu est si centrale et si importante. Soyons clairs, il y a beaucoup d'obédience chrétienne au moment où je parle, pour lesquelles la parole de Dieu est, somme toute, relativement secondaire. C'est parfois le rite, les sacrements, peu importe, qui ont pris la place de la parole de Dieu. Alors nous avons vu la semaine passée que notre cœur, ou il y a 2 semaines plutôt, que notre cœur était malade. C'est une bonne nouvelle ça. Qu'il souffrait d'un mal que la Bible appelle le cœur divisé ou le cœur double, rappelez-vous, dipsoukos, le cœur dipsoukos en grec. Donc si nous voulons être sauvés de notre cœur divisé, nous devons être transformés. Et là, je laisse la parole à Paul. Je pense que c'est un verset que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. Et si pas, vous devriez. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est une pratique indispensable si nous voulons voir notre intelligence, notre cœur renouvelé. Et cette pratique, c'est d'immerger notre cœur, notre intelligence dans la parole de Dieu. Je rappelle que le cœur, dans le langage biblique, est le siège de tout ce qui fait un homme. Sentiments, émotions, intellect. Tout se trouve dans le cœur et centralisé dans le cœur. L'auteur du psaume 119, encore lui, avait déjà bien compris ce qui était en jeu lorsqu'il écrit 1000 ans avant la naissance de Jésus, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je pense que je n'ai pas besoin de développer l'image du fait de serrer. Quand on serre quelqu'un ou quelque chose, c'est pour l'empêcher de s'en aller. D'accord ? Donc, comment lire la Bible de manière à purifier nos cœurs ? Comment lire la Bible de façon à vivre comme Jésus vivrait nos vies s'il était à notre place ? Parce que c'est une autre façon d'exprimer les choses. Alors, cela ne va pas vous étonner sans doute si je vous dis que c'est la Bible elle-même qui va nous donner un début de réponse au travers d'une métaphore. Commençons donc par là. Voici ce que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Ça va faire plaisir aux dames, je pense. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, nous n'allons pas nous arrêter sur les maris dont parle Paul, mais bien sur l'analogie qu'il utilise pour justifier le type d'amour dont les maris doivent aimer leurs femmes et le rôle que joue la parole dans ce processus. Nous, la communauté, l'épouse, devons être purifiés et lavés par l'eau de la parole, afin que le Christ puisse présenter à son Père une église propre, purifiée, lavée, sans tache ni ride. C'est le sens de cette image. Mais ça veut dire aussi que nous avons donc été régénérés par la parole, par l'Évangile. C'est la double action de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu qui nous fait passer par la nouvelle naissance. La plupart d'entre vous, même la totalité d'entre vous, je suppose, est passée par ce processus. Parce que régénération, quand vous tombez sur ce terme dans la Bible, il n'apparaît pas à beaucoup d'endroits, hein, mais quand vous tombez dessus, il signifie simplement nouvelle naissance, c'est un synonyme de la nouvelle naissance. Mais la foi nécessaire au salut vient de ce qu'on entend, dit Paul, en Romains 10, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il y a deux éléments principaux à l'œuvre dans la conversion d'un être humain, c'est d'un côté l'Esprit Saint et de l'autre la parole de Dieu, dont l'Esprit Saint va se servir pour convaincre le cœur de la personne en question. Ça, c'est ce que Dieu accomplit pour que nous soyons justifiés. Nous avons été plongés dans le bain de la justification par l'application de la justice du Christ à notre âme. Ça va jusque-là ? Je fais un condensé, là. C'est ce que Dieu accomplit pour nous hier. Ça ne vous étonnera pas, votre conversion, elle est dans le passé, d'accord ? Même si on finit jamais de se convertir quelque part. Il reste maintenant à prendre notre bain de sanctification, de purification, dont la parole est également l'élément purificateur, le savon, si vous préférez, qui doit nous purifier jour après jour. Et ce bain-là, il doit donc être journalier, quotidien. On doit se laver, on doit laver notre cœur tous les jours à l'aide de la parole. Alors, si vous avez un petit problème avec ça, imaginez simplement un instant à quelque chose qui n'est pas lavé qu'il devrait. Imaginez que nous fassions un concours pour celui qui resterait le plus longtemps sans se laver. Vous voyez les conséquences ? Alors, si un jour on fait ce concours, moi je vais le perdre tout de suite, hein, parce que moi je ne tiendrai même pas une demi-heure, quoi. Ça, c'est garanti. C'est pour ça que je ne ferai jamais de camping. Enfin, soit, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais soit. Par contraste, représentez-vous quelque chose de lavé, un vêtement par exemple. L'agent lavant se dépose dans toutes les fibres, dans le moindre recoin du vêtement, en tout cas c'est ce que disent les pubs pour les poudres lessivées, et finit par le rendre totalement propre. Aussi sale soit-il, le fait de le laver lui rend sa pureté initiale. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous péchez tous les jours et tous les jours la parole de Dieu et l'Esprit Saint sont susceptibles, si vous exposez à ce qu'ils ont à vous dire, sont susceptibles de purifier votre cœur par cette parole avec l'action de l'Esprit. Encore une fois, si la parole de Dieu n'est pas en vous, l'Esprit Saint n'a aucun outil C'est comme un potier sans argile, il ne peut absolument rien transformer. Il ne peut se servir que de la parole qui s'insinue dans votre cœur. Lorsque nous venons à Dieu, nos esprits et nos cœurs sont dans le même état que certains de nos vêtements. Ils sont sales. Ils sont encombrés de fausses croyances, de mauvaises habitudes, de sentiments toxiques, de peur et d'espoir placés en des plans foireux et autres chimères ou utopies en tout genre. Et bien que nous ayons reçu un cœur nouveau à la conversion, un cœur circoncis, comme le dit la Bible, il doit être encore lavé de ses souillures quotidiennes. Vous ne recevez pas ce cœur pur une fois pour toutes, dans le sens où il ne va pas rester pur parce qu'on vous le confie pur. Il va s'entacher aussi. Alors si vous avez un doute là aussi, vous pouvez, hein, sur l'état de votre cœur au quotidien, essayer en fin de journée une fois, il faudrait le faire tous les jours d'ailleurs avant d'aller dormir, évaluer votre journée devant Dieu. Prenez le temps de faire ça, évaluer l'action et l'activité de votre cœur ce jour-là envers vous, envers Dieu, envers les autres, et vous allez vous rendre compte que c'est assez catastrophique. Alors, quelques exemples. Vous marchez dans la rue et vous apercevez au loin un homme assis par terre et tenant une pancarte sur laquelle il est écrit « J'ai faim ». Malheureusement, très classique de nos jours. Et c'est là qu'une pensée vous vient. Ce gars est sale, je peux le sentir jusqu'ici, qu'il ne s'est pas lavé depuis 6 mois. Non seulement je ne lui donnerai rien, mais en plus, je ne vais même pas le regarder parce que je n'ai pas envie de me sentir coupable de ne rien lui donner. Ce genre de pensée sort d'où ? De votre cœur. Un peu plus tard, grand classique, hein, en tout cas dans notre église, vous faites la queue à la caisse d'une grande surface. C'est là que vous remarquez que la personne qui est première dans la file est en grande conversation avec le caissier qui apparemment ne maîtrise pas tout à fait le français. Et la conversation s'éternise de par le mauvais niveau de français du caissier. Et c'est là que la pensée vous vient. Elle remonte du plus profond de votre cœur. Pourquoi ce foutu magasin ne peut-il pas engager du personnel qui parle français ? Tout ce que j'ai envie, moi, c'est de sortir de ce magasin. Ce même jour, parce qu'il y a des jours comme ça, vous aurez remarqué, vous devez encore faire une course ailleurs, seulement voilà, c'est samedi, c'est une grande surface, le parking est bondé, il n'y a plus de place, et vous tournez, tout à coup, oh, la providence divine, une place se libère. Vous allez vous y engager, et là, vous avez une autre voiture qui ne respecte pas le sens giratoire du parking, qui vous coiffe sous le poteau, et qui prend la place. Vous klaxonnez un long moment, vert de rage. Et sans votre femme, parce que votre femme est là, vous seriez probablement sorti de la voiture pour imprimer la tête du type dans son capot. Ou alors c'est vous qui devez retenir votre femme. Ça marche parfois dans ce sens-là aussi. Et c'est pas fini, c'est là que ça devient très drôle. Arrivé enfin dans le magasin, le gars du parking de l'autre voiture vous reconnaît, vient vers vous et vous dit « Excusez-moi, mais il me semble que vous avez des problèmes de gestion de la colère. Je suis chrétien, peut-être que je peux vous aider. » Des foutues journées comme ça, parfois. Mais encore mieux ou pire, c'est selon. Je me rappelle très bien qu'un jour, j'étais en train de lire ma Bible dans le but d'apporter un moment de partage au début d'une rencontre de responsables d'église. Un moment très important. Je ne sais pas si vous savez, mais quand des responsables d'église se réunissent, il faut forcément que la réunion commence par un partage biblique. Hein. Autrement, ça ne fait pas sérieux. Donc, je lis ce texte en vue de, quand tout à coup, donc je tombe sur un verset et j'en retire quasi immédiatement le sens profond. C'est ce qu'on appelle un cadeau. De plus, ce verset était en rapport direct avec le point le plus important et délicat que nous avions à l'ordre du jour de notre réunion. Et c'est là que je me suis vu en imagination faire mon exposé et recueillir l'approbation et les louanges extasiées de mes collègues. Oh, où est-ce qu'il va chercher tout ça, quoi ? Mais ce qui est grave, c'est que Dieu m'avait parlé personnellement, mais moi, J'étais intéressé que par le fait que j'allais passer pour quelqu'un de super spirituel, surtout quand je leur ai raconté en plus dans quelles circonstances tout cela m'était venu. Je l'imaginais déjà. Donc j'avais transformé un moment d'intimité durant lequel mon père m'avait parlé en occasion de prouver ma grande science théologique et en vue d'impressionner les autres. Tout ça partout de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas encore tout dit. Ce verset au travers duquel Dieu m'avait si fortement parlé concernait l'humilité. Il faut le faire quand même, non ? Donc ces quelques expériences quotidiennes que je viens de partager avec vous sont typiques des pensées qui habitent notre esprit, notre cœur et qui le souillent. Notre esprit est en fait semblable, je reprends ici une image d'Henri Nouwen que certains d'entre vous connaissent, je pense, un prêtre catholique. Il dit « Notre esprit est semblable à un bananier rempli de singes qui y montent et en descendent sans arrêt. » C'est pour ça que ça fait des années que je ne mange plus de bananes. Ouais. Notre esprit, notre cœur, ce sont des synonymes dans la Bible aussi, comme ça vous le savez, est rarement à l'arrêt ou tranquille. Toutes ces pensées, tous ces chimpanzés qui ne cessent de réclamer notre attention en permanence, comment en être quitte ? Alors, je ne voudrais pas vous faire peur, mais dans les quelques exemples que je vous ai donnés, les pensées émises n'étaient encore que très légèrement souillées. Il y a bien pire. Elles l'étaient réellement car elles sont produites par notre ancienne nature, cette nature qui a déposé pendant des années, depuis notre naissance en fait, sa conception du monde, des autres et même de Dieu dans notre cœur, au moyen de l'apprentissage de la vie sans Dieu. Mais ce ne sont pas les pires que nous pouvons produire. Il existe en nous des pensées bien plus noires, des pensées qui ressemblent en fait à de gros nuages de crasse. Imaginez ça à l'intérieur de vous, blotti bien au chaud dans votre cœur. Imaginez le temple de l'esprit, habité par ce genre d'encens. Visualisez bien cette image et vous aurez une petite idée de ce qui se passe parfois à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi. C'est ce cœur dont Dieu attend qu'il soit purifié de toute cette pollution, de toutes ces pensées colériques, obscènes, violentes, ou d'une amertume abyssale. Alors les pères du désert, on peut difficilement traiter la problématique des pensées sans faire référence aux pères, les pères du désert avaient un mot pour ces pensées. Ils appelaient ces pensées des logismoi. Pour eux, ce mot fait référence aux fausses idées, aux faux raisonnements et aux désirs qui nous poussent à pécher et à désespérer. Ces pensées, soyons clairs, sont très souvent subtiles et surtout implacables. Elles ne vous lâchent jamais. Autrement dit, ça veut dire, en pratique, que vous allez devoir vous battre contre ce genre de phénomène toute votre vie durant, tant que vous serez sur cette terre, avec plus ou moins d'acuité le combat, suivant les cas. Il y a parfois des moments où on respire un peu mieux, hein. On doit se battre, mais on peut aussi apprendre à ne plus les laisser entrer après avoir appris comment nous en purifier. Dans une image bien moins drôle que celle du bananier, Jean Climac, un moine syrien du 6e et 7e siècle, qu'on appelle Climac parce que Climax veut dire échelle en grec, et que Jean Climac a écrit un livre qui a fait référence dans la spiritualité chrétienne au cours des siècles, c'est l'échelle sainte, échelle Climax. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean Climac, Jean de l'échelle, si vous préférez. Il compare ces pensées que nous avons parfois à des œufs d'asticot. Ces logismoi sont des œufs d'asticot qui sont incubés dans le sol de notre ancienne nature. Les bananiers, les singes, les chimpanzés, c'est encore sympa. Hein? Les œufs d'asticot qui incubent, ça c'est beaucoup moins drôle. C'est donc aux pensées qu'il convient de s'attaquer si l'on veut mettre fin aux paroles et aux actes extérieurs qui ne glorifient pas Dieu. Parce que c'est clair que tout commence par les pensées. Si vous n'apprenez pas à maîtriser vos pensées, à les combattre, les pensées souillent, j'entends, qui souillent de votre cœur, vous allez finir par dire des paroles, et même parfois dans certains cas extrêmes, à poser des actes qui sont totalement à l'antithèse de ce que Dieu désire pour votre vie. Et la preuve que c'est bien là que se situe le problème au niveau des pensées, c'est que lorsque Jésus nous dit que nous sommes potentiellement des meurtriers et des adultères, il fait bien référence à ces pensées qui séjournent à l'aise au plus profond de notre cœur. On n'a encore tué personne, on a encore commis l'adultère pratiquement avec personne, mais ces pensées se trouvent d'ores et déjà dans notre cœur. Alors le plus terrible, mais ça il faut s'y faire, faut pas être naïf. Le plus terrible, c'est qu'éloigner l'objet de nos pensées dans la réalité de nos vies, donc dégager de vos vies l'objet qui vous pose problème dans votre vie. Par exemple, si vous convoitez une femme qui n'est pas la vôtre, le simple fait de dégager cette femme de votre environnement, dire « loin des yeux, loin du cœur », ça ne suffira pas à purifier votre cœur de la présence de cet être et de votre convoitise. L'éloignement de l'objet sensible de votre convoitise ne va pas tout résoudre, au contraire. C'est bien pour cette raison que les pères appellent le combat contre les pensées impures le combat intérieur, le combat invisible, le combat et guerre. Ils n'ont pas le terme guerre, combat et guerre du cœur, parce que l'objectif de cette guerre, c'est la suprématie de Dieu sur votre cœur. Donc, vous l'aurez compris, ces différents termes que je viens de vous citer, il y en a bien d'autres qu'ils ont émis au cours des siècles, ces termes laissent peu de place à l'équivoque. Le combat contre vos pensées, c'est le combat de votre vie. Vraiment. Macaire le Grand, un autre père, votre dose est père de l'Église aujourd'hui, a écrit « Il faut que le combat de l'homme porte sur ses pensées, dit-il. Celui qui veut devenir véritablement chrétien doit se livrer à un combat non pas charnel, ça ne sert à rien de vous flageller, mais de l'esprit contre les pensées. Et c'est au prix d'un tel combat qu'il pourra obtenir la purification. » Donc pensez que vous êtes purifié en restant assis sur votre chaise. En attendant que ça vienne, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir se bouger un petit peu, bouger beaucoup. Alors, on va essayer d'être pratique, même si je ne vais pas avoir l'occasion de tout approfondir. Ça faudra venir un jour dans une retraite de 6 mois. Peut-être qu'en 6 mois, j'aurai fait le tour. Les pensées peuvent avoir 2 origines. Je me base toujours sur l'enseignement des pères de l'Église. Les dispositions et les prédispositions de l'homme, d'une part, et l'activité démoniaque de l'autre. Donc je répète, 2 origines aux pensées que nous avons. Les dispositions et les prédispositions de l'homme, d'une part, l'activité démoniaque, d'autre part. On va commencer par les dispositions. Qu'entendent les pères par disposition? Eh bien, ce sont les passions qui agissent dans nos membres et agite nos cœurs, comme le disent Paul et Jacques. Oui, ça vous l'aurez compris, les pères de l'Église s'appuient sur les Écritures pour enseigner ce qu'ils enseignent, évidemment. Donc je répète ça, ce sont les passions qui agissent dans nos membres et agitent nos cœurs, comme le disent Paul et Jacques. Et vous aurez dans les notes toutes les références bibliques de ces textes. Allez y jeter un coup d'œil cette semaine, c'est toujours intéressant. Immergez-vous dans la parole de Dieu. Donc je ne mets pas les références bibliques pour faire décoratif, vous aurez bien compris. Elles sont le produit, ces dispositions, de notre ancienne nature, de notre nature humaine, que l'on trimballe encore et toujours avec nous, malgré ce nouveau cœur que Dieu nous a donné. Et puis, il y a des prédispositions. Celles-ci sont constituées par le souvenir du mal, le souvenir du péché, donc par la trace laissée dans l'âme, dans le cœur, par des passions, des fautes, des péchés, des négligences passées. Les péchés que vous avez commis avant laissent des traces dans votre cœur aujourd'hui et peuvent potentiellement se transformer en pensées. Marc le moine, on n'en sait pas plus, écrit aussi à ce sujet que les prédispositions sont comme une réminiscence involontaire, j'insiste sur le terme involontaire, de méfaits antérieurs. Ça veut dire que vous n'allez pas chercher vous-même ces pensées dans votre cœur, elles viennent comme de nulle part. Vous n'attisez pas ces pensées, vous ne les imaginez pas, vous ne travaillez pas dessus, vous ne construisez pas un chemin de péché à partir de ces pensées, elles arrivent sans être demandées, parce qu'elles sont là depuis des années, suite à un péché que vous avez commis. D'accord ? Alors vous aurez peut-être déjà compris qu'une prédisposition peut donc exister, alors même que nous nous sommes désolidarisés de la passion correspondante ou ne commettons plus depuis longtemps le péché ou la faute qui a établi cette prédisposition dans l'âme. Vous ne commettez plus ce péché, avec cette personne ou en pensée ou en acte ou en parole, peu importe, vous ne commettez plus ce péché depuis bien longtemps, mais il a créé une prédisposition dans votre âme, dans votre cœur. D'accord ? Autrement dit, outre les pensées actuellement volontaires, celles que vous allez appeler de vos voeux, c'est terrible, c'est comme ça, il y a également dans le cœur des pensées actuellement involontaires, mais qui ont été autrefois volontaires. Si un péché du passé est encore caché, tapis dans votre cœur involontairement, c'est parce qu'un jour, volontairement, vous avez commis ce péché. Vous comprenez ? Je suis toujours là pour à disposition pour les questions éventuelles. Et là, je vous filerai 8 ou 9 bouquins de 900 pages chacun pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Et la moitié en grec. Je plaisante. Hein. Donc ces pensées en tant que conséquences ne sont pas volontaires. Nous n'en voulons pas de ces pensées plus, mais elles sont là. Mais les causes en sont volontaires. Nous avons voulu leur cause à une certaine époque. Sur le chemin qui nous mène au péché, au départ, ça n'est qu'une pensée, une tentation, et après, ça se transforme en un chemin où nous voulons vraiment marcher. Hein, ne soyons pas naïfs. Hein. On peut résister un moment à la tentation. Une fois qu'on cède, on s'engage volontairement, donc nous sommes responsables, sur ce chemin qui nous mène au péché. Hein. Pour ça qu'après, quand vous demandez pardon d'un péché, quel qu'il soit à Dieu, peu importe les circonstances pseudo-atténuantes de ce péché, vous ne devez jamais mettre des « mais » dans votre demande de pardon. Ne dites pas à Dieu « je te demande pardon, mais il y a... » Non, 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 non. Tu es responsable du chemin de mort que tu as emprunté. Et c'est seulement en étant responsable jusqu'au bout que Dieu peut nous en purifier et nous pardonner. Donc ce qu'il faut comprendre, ça ne va pas nous faire plaisir, mais c'est que nous aimons les causes des pensées qui se forment malgré nous. Et c'est pour ça qu'elles nous viennent. Parce qu'à l'époque, nous ne serions pas tombés si elles ne nous avaient pas plu. Si le péché n'avait pas un côté attrayant, personne ne pécherait, mes amis. Mais dans le cas des pensées volontaires, que nous appelons nos voeux, il est clair que nous aimons non seulement les causes, mais aussi leur objet. En résumé, ça va être facile, les pensées involontaires naissent d'un péché antérieur, les péchés volontaires du libre choix de la volonté propre. D'où, mais vous aurez sans doute compris, il est clair que les secondes sont responsables des premières. Donc si nous avons des pensées involontaires liées à une faute passée qui nous reviennent, c'est parce que nous leur avons un jour volontairement ouvert la porte. Le péché est tapis à ta porte. Prends l'ascendant sur le péché. Bats-toi. Bon, c'est très résumé ce que je viens de dire. J'en suis conscient, hein, mais je ne peux pas développer ça. L'autre source des pensées, là on avait déjà la dose, on me dirait, ben non, il y a encore une autre source. L'autre source des pensées, c'est l'activité démoniaque. Youpi. Alors, nous avons, même si nous sommes chrétiens, protestants, évangéliques, nous croyons à l'immanence de la Bible et nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu, mais je remarque quand même, à force, après des années, quand on parle des démons, Les chrétiens ne sourient pas, mais ils n'ont pas vraiment l'impression d'avoir une grande expérience de l'activité démoniaque. Eh bien, c'est un tort, parce que croyez-moi, la grande majorité des chrétiens subissent d'une manière ou d'une autre des activités démoniaques. La Bible nous invite en tout cas à considérer que la réalité est complexe. En tout cas plus complexe que ne laisse entrevoir la seule vue rationnelle ou scientifique des choses. Il y a un seul univers, une seule réalité, c'est la réalité palpable et tangible, matérielle qui nous entoure, dont nous faisons partie. Les scientifiques nous disent évolution, machin, on descend du singe, peu importe, ça je touche, c'est bon, ça existe, ça aussi. Le reste, c'est du bavardage et ce sont des inepties. Alors, aucun chrétien véritable ne va adhérer à ça. Mais dans la pratique, quelle place prend la chose démoniaque dans votre vie, franchement? Ça vous arrive souvent de prier Dieu pour qu'il vous protège des influences démoniaques? Il y en a certains qui disent oui. Oh, merci Seigneur. Alors, je dis, nous avons peut-être du mal avec cette dimension-là. Ce qui veut dire que nous n'y pensons quasi jamais. On ne se sent pas vraiment concerné, et pourtant. Alors, le sujet est vaste comme l'autre, et il est bien trop pour que je puisse l'aborder en profondeur ici, mais j'aimerais malgré tout faire quelques remarques, que j'ouvrirai par une parole de Paul que vous connaissez tous, je pense, et que je tire de sa lettre encore à l'Église d'Éphèse, chapitre 6, le verset 12, que nous connaissons bien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, on tire souvent l'application suivante de ce verset. Si un homme est insupportable avec moi, je n'ai pas à le frapper. Je vais me dire, pas responsable, il fait les œuvres de son père le diable. Enfin, je ne peux donc pas concentrer ma réplique, mon opposition au mal contre un être humain. Je dois la concentrer sur la source du mal. D'accord ? C'est juste, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout du tout. C'est une redondance forte, c'est une rime forte. Ce n'est pas tout du tout. L'activité démoniaque s'exerce sur l'âme, donc le cœur, indirectement. Je précise bien, indirectement, par l'intermédiaire du corps. Je ne sais pas pourquoi je touche mon ventre en disant ça, mais... Donc, au moyen des sens, mais aussi des motions ou des pulsions internes, ou directement, au moyen surtout de la mémoire et de l'imagination. On prône souvent l'imagination aujourd'hui dans certains domaines. Alors, dans certains domaines peut-être, mais dans le domaine spirituel, l'imagination, c'est une calamité absolue. Les scénarios qu'on peut se monter dans la tête, n'est-ce pas ? Non ? Oui ? Bah oui. On se fait des films, mais c'est même pas possible, quoi. Alors certains sont des Cecil B. DeMille dans ce domaine. Ils font des scénarios de 4h30 minimum. Il faut 4h30 pour dire « Oh mon Dieu, je fais un scénario !» 4h30, donc il va te falloir 8 mois, 42 minutes, 35 secondes pour purifier ton cœur sur ce coup-là. Cette utilisation par les démons des facultés humaines pour susciter les pensées fait que nous les sentons toutes, je dis bien toutes, comme si elles provenaient du cœur, de notre ancienne nature, d'accord, non régénérée. Autrement dit, on a du mal à discerner si elles viennent d'ailleurs. Alors, c'est clair, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de nos pensées viennent de notre ancienne nature, les œufs d'asticot, qui est un cube. Mais si un zin cube, c'est qu'à un moment, on peut leur couper la tête ou marcher sur les œufs avant que le bébé n'émerge de l'œuf. Mais parfois, on a l'impression qu'elles viennent de là. Elles ne viennent pas de là. Elles sont l'expression d'une pression démoniaque. Alors, j'ai pas le temps de développer les symptômes, mais il y a un symptôme qui revient beaucoup quand c'est une pression démoniaque dans le temps. C'est la tristesse profonde. Quand vous êtes écrabouillé par la tristesse, en règle générale, ça sent le soufre. D'accord ? Tout ceci étant dit, il est important On revient à la dimension de pardon et de relation à Dieu. Il est important de réaffirmer notre responsabilité même quand il y a pression démoniaque. C'est ce que dit Isaac le Syrien, de mes petits chouchous. En toute tentation, condamne-toi toi-même comme étant la cause de ce qu'elle t'arrive. Pourquoi ? Parce que s'ils ont une prise en vous, c'est parce que quelque chose qui ne doit plus s'y trouver, s'y trouve encore. S'ils peuvent se servir de votre convoitise, par exemple, c'est parce que convoitise, il y a. Et vous êtes responsable du fait qu'il y ait la convoitise dans votre cœur. D'accord ? Quand on dit que l'homme est responsable devant Dieu, vous êtes responsable de ce que vous pensez, même si parfois ces pensées sont suscitées par une origine autre que votre ancienne nature. C'est ce qu'enseigne Jacques, notre ami Jacques. Décidément, on passe notre vie dans l'épître de Jacques. Je rappelle ce texte, qui est pour moi un des plus explicites de toute l'Écriture sur le sujet. Il dit ceci, « Mais chacun, rappelez-vous, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, vous y allez, donne naissance au péché, le péché est parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Vous êtes sur un chemin qui mène à la mort. » Alors, une bonne nouvelle, l'ennemi de nos âmes, les démons, le diable, ne peut pas lire dans nos pensées ni dans notre cœur. Il n'est pas omniscient ni omnipotent. Amen, quelle chance. Mais, il a une grande expérience de l'humanité. Il la domine depuis la nuit des temps. Et forcément, ça crée des liens. Alors nous savons, je pense que tout ça est vrai, du moins je l'espère, et nous faisons l'expérience de cette réalité tous les jours, sans toujours pouvoir mettre une étiquette sur ce que nous faisons ou ressentons. Mais nous savons tout ça, et nous savons que ce qui nous fait cruellement défaut, c'est justement cette pureté de cœur, cette incapacité de nous souffrons, de ne pas désirer une seule chose, et de nous laisser souiller par nos pensées. Et ça me permet de comprendre mieux certains enseignements, par exemple de Silouane, Père du désert, qui n'est pas ma tasse de thé pour différentes raisons. Mais quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, Silouane, s'il te plaît. Lui disait, quand je m'en prière, il y a des démons partout. Et je me dis, quelle vie d'andouille, tu te rends compte. Chaque fois que tu veux prier, il y a des centaines de démons dans la place. J'ai le pauvre type. En fait, non. Ça veut dire que lui, souillé par sa propre nature, c'est terminé. Il faut, pour qu'il tombe, que la pression démoniaque soit optimale. Il n'y a plus rien qui est produit en lui par son ancienne nature, ou quasi plus rien. Autrement dit, pour le faire tomber ou chuter, il va falloir mettre la dose de l'extérieur. Donc c'est une bénédiction si un jour, quand vous installez pour prier, « Oh tiens, Belzébuth, comment vas-tu? Ça fait longtemps. » Oui, non mais... Parfois, j'ai envie d'entendre profondément quelque chose de la part de Dieu. Et le moment suivant, je me sers de ce que j'ai entendu pour impressionner les autres. Ces pensées, ces logismoi, sont la contrepartie infernale de ce que dit l'Écriture quand elle parle de l'importance et de l'effet de la parole de Dieu dans la vie des hommes. C'est 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que Paul dit. Et littéralement, la respiration de Dieu, la Bible est la respiration de Dieu, elle est l'émanation même de son être profond. Vous ne pouvez rien en retirer sans amputer la nature profonde de Dieu de quelque chose. Il faut croire par la foi que tout ce que dit la parole de Dieu est vrai sur tous les sujets, dans tous les domaines. Et certainement dans le domaine qui nous concerne le plus, nos pensées, notre fonctionnement, notre sanctification, notre purification. C'est d'ailleurs parce que toutes ces pensées dont nous venons de parler nous souillent, sont nos ennemis, qu'elles nous empêchent de méditer la Bible. C'est pas pour rien, vous savez que vous avez du mal à vous concentrer sur le texte biblique. Hein? Votre ancienne nature n'en veut pas, et la réalité spirituelle, la sphère spirituelle qui vous entoure n'en veut pas non plus. Toutes ces pensées, ces images, ces inquiétudes qui nous assaillent alors que nous sommes en train d'essayer de lire, de méditer la Bible. Ne venez pas me dire que ça vous arrive jamais. Ça peut prendre souvent de longues minutes, et quand je dis minutes, je suis gentil, pour que ces voix intérieures se taisent. Mais malheureusement, le plus souvent, nous n'attendons même pas jusque-là. Nous abandonnons avant, nous disant que ça ira mieux demain. Eh bien non. Ce que vous avez lâché aujourd'hui, ça ne sera pas plus facile à reconquérir demain. C'est pour cette raison que je conseille toujours de prier le Saint-Esprit ou notre Père avant de lire l'Écriture ou avant de la méditer pour qu'il puisse justement nous illuminer de l'intérieur en éclairant le texte que nous sommes en train de lire. Je suis toujours, après plus de 30 ans de vie chrétienne, j'allais dire émerveillé, mais ce n'est pas le terme. Hein. Effrayé. Ouais. Je suis toujours effrayé de voir combien mon esprit a besoin d'être nettoyé. Il y a un jour, il est juste, on a bien nettoyé, super. Allez, cool. Le lendemain, rebelote, on peut recommencer. C'est sans doute pour cette raison que Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle, passait tant de temps dans le confessionnal lorsqu'il était moine, parce qu'il a commencé par être moine, évidemment, avant sa conversion. Il pouvait parfois passer des heures dans le confessionnel, ce que les autres moines ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant des heures dans ce confessionnal? Qu'est-ce qu'il peut bien confesser pendant des heures? C'est vrai, après tout, qu'est-ce que peut bien confesser un moine pendant des heures? Puisqu'il avait consacré sa vie à Dieu, c'est pour ça qu'il était moine. Que pouvait bien avoir à confesser un moine pendant des heures? D'avoir fait un lit portefeuille aux autres moines? Réminiscence d'un camp d'église que je n'ai jamais oublié? Et les coupables payeront! Ou alors, qu'est-ce qu'il peut envoyer aux autres moines? Pourquoi? Parce, d'avoir chanté fou à l'office? Oui, ça, moi, ça me poserait un solide problème si j'étais moine. J'en voudrais à mort au gars qu'on a... Ce serait une catastrophe. Hein. Je pense que je passerais aussi des heures au confessionnal. Non, mais franchement, et on peut comprendre le questionnement des autres moines, mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, je ne vous dis pas le prieur qui écoute la confession du moine. Hein. Pendant des heures, t'es nouveau là, Martin? Oui, mais ça fait 4 fois aujourd'hui, et ça fait 4 fois 3 heures. Quoi. La moitié de ma journée est passée, oui, mais c'est... Père, très sage, j'ai besoin de me confesser. Non, en fait, on sait très bien ce qu'il perturbait. Il était en fait effrayé par sa capacité à se justifier lui-même. Il connaissait le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il connaissait ce commandement. Vous le connaissez sans doute vous aussi. Mais il était incapable d'y obéir, ne fût-ce que 5 minutes d'affilée. Et c'est ça qui le rendait malade. Peut comprendre. Hein. Il y a ce que l'on désire, et puis il y a le constat de ce que nous sommes. Alors imaginez maintenant un instant que votre esprit soit lavé, votre cœur est lavé, de tous les débris qui contrarient toutes vos bonnes intentions, toute cette bonne œuvre que Dieu a placée sur votre route. Imaginez que chaque fois que vous croisez quelqu'un, votre première pensée soit de prier pour cette personne, et de la bénir. Alors, je sais que certains le font déjà, mais parfois il faut aller chercher ça. Ah oui, il faut que je bénisse, ou que je prie pour la personne, ou que je la bénisse. C'est bien, mais parfois c'est un peu de la maîtrise quand même. Ça n'est pas toujours spontané. Imaginez comme ce serait bien si chaque fois que vous êtes anxieux ou confronté à un souci, votre réflexe soit de vous tourner vers Dieu avec confiance. En fait, il n'y a pas de problème. Je vais en parler à mon père. Ce problème, quel problème? Je suis enfant du royaume, je suis héritier du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ce monde-ci pourrait me poser comme problème? Mourir de rire, quoi. Alors imaginez que vous soyez marié, messieurs, ça peut fonctionner pour mesdames aussi sans doute, hein, mais je ne suis pas une femme, donc je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Imaginez que vous soyez marié, messieurs, et que chaque fois que vous regardez une femme autre que la vôtre, vous la voyez de la même manière que votre sœur ou votre fille. Plus rien d'autre ne passe dans votre petite tête ou dans votre cœur. Le pied absolu, quoi. Imaginez vouloir vraiment, du plus profond de votre être, du bien à vos ennemis. Il ne faut même plus réfléchir. Il me veut du mal, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Hein? C'est à ça, en gros, hein, qui ressemble une vie purifiée, en fait, par la parole de Dieu. C'est à cela que ressemble la vie dont parle Paul dans sa lettre aux Colossiens. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques mots, je pense. Hein, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et une de ses richesses, c'est la capacité de purifier, de conserver notre cœur pur, avec comme récompense ultime que nous verrons Dieu, nous voyons Dieu. Avec ces yeux-là, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Avec, justement, les yeux du cœur, les yeux de la foi. C'est de cela que nous avons besoin, vraiment, et de rien d'autre. Et donc la Bible est là pour nous aider à apprendre comment vivre dans le royaume de Dieu ici et maintenant. Elle nous apprend comment nous métamorphoser. Et je termine. Vous aurez donc bien compris que nous ne pouvons pas accomplir cette tâche de sanctification sans elle. À titre personnel, je n'ai jamais rencontré personne menant une vie spirituellement transformée qui n'ait pas été au préalable et cependant des années immergée profondément dans l'Écriture. Pensez être purifié au quotidien sans passer du temps dans l'Écriture, vous l'aurez. Ça ne fonctionnera pas. On verra dimanche prochain que avoir de grosses connaissances bibliques, ça n'est pas un gage de purification non plus, mais c'est un autre problème. On abordera ça la semaine prochaine, je pense. Mais le principe reste. Nous avons besoin de cet agent de purification, qui est la parole de Dieu. Paul parle d'ailleurs de ce rôle de l'Écriture dans ce passage que j'ai cité en partie tout à l'heure et qu'on va reprendre dans son intégralité en 2 Timothée 3,16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors vous avez remarqué, sans doute, hein, que Paul ne dit pas que l'objectif en connaissant l'Écriture est d'obtenir la cote maximale du jury pour entrer au paradis. Il n'aurait pas un contrôle de connaissances bibliques à l'entrée du paradis. Hein. Ou connaître la Bible pour recevoir les félicitations du pasteur, mais bien que la connaître nous forme pour de bonnes œuvres. Que dans une autre épître, toujours l'épître aux Éphésiens, Paul dira que ces bonnes œuvres, Dieu nous les a disposées devant nous avant la fondation du monde. Donc son rôle à l'Écriture est de nous transformer en une personne dont du cœur, et là je cite Jésus, s'écoule des fleuves d'eau vive, pas un goutte à goutte, hein. Pas un robinet qui fouille un petit peu quand il est fermé. Hein. Des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves, vous l'aurez compris, ne peuvent sortir que d'un cœur glorifié, purifié. Glorifié, soyons modestes, hein. Ça sera pour l'étage, ça. Encore une dernière petite précision. Être préparé à toute œuvre bonne ne veut bien entendu pas dire que nous devrons passer nos journées à jouer au Boy Scout. Alors, vous pouvez bien sûr, suivant le bon vieux cliché d'une vieille dame à traverser la rue, hein, bien entendu, mais vous ne devez pas passer votre journée à accumuler des bons points. Ce n'est pas l'objectif. Si vous avez cet objectif-là, c'est de nouveau raté, quoi. Parce que vous allez vous souiller avec du légalisme. Dieu doit m'accueillir puisque je fais des choses bien pour lui. Ces œuvres bonnes ne sont pas des choses que nous nous contentons de faire pour être bien notés par Dieu. Elles sont l'expression extérieure de la profondeur invisible de la richesse de Dieu en nous, de notre vie relationnelle avec lui, de la présence de sa parole en nous et de l'œuvre qu'elle y accomplit. C'est ça qui doit produire nos œuvres bonnes. Et je tenterai de vous donner des pistes pratiques concernant la méditation de la parole la semaine prochaine. En attendant, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.